Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Initiation à la version anglaise de Françoise Grellet est un manuel de méthodologie consacré à la traduction de l'anglais vers le français. » Exercice traditionnellement appelé version. Il ne se présente pas comme une simple collection de corrigés ni comme un dictionnaire de difficultés isolées. Son objectif est d'apprendre à lire un texte anglais avec précision, à en dégager l'organisation et les effets, puis à produire un français fidèle, idiomatique et cohérent. L'ouvrage articule conseils généraux, études de la compréhension, procédés de traduction, difficultés récurrentes et entraînement progressif. Il aborde notamment la ponctuation, les phrases complexes, les inversions, les calques, le choix lexical, ainsi que la restitution des images, du style et du ton. 50 textes d'application, répartis selon plusieurs niveaux de difficulté, permettent d'observer des traductions ou de s'exercer directement. Longtemps présent dans des bibliographies universitaires et de classes préparatoires, ce guide vise des lecteurs qui souhaitent transformer une connaissance scolaire de l'anglais en pratique raisonnée de la traduction littéraire et générale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre avant de traduire la version comme lecture structurée. Le point de départ du manuel est une exigence souvent négligée par les débutants. On ne traduit pas une succession de mots, mais un texte dont il faut d'abord construire l'aisance. Cette priorité explique la place accordée à la compréhension de la ponctuation, des articulations logiques et des phrases complexes. Une virgule, une relative, une opposition ou une subordonnée peuvent modifier les relations entre les idées et donc orienter toute la traduction. Le travail demandé consiste à repérer qui parle ou agit, à distinguer l'information principale des précisions secondaires et à identifier les liens de cause, de concession, de conséquence ou de chronologie. L'inversion anglaise est également un exemple utile. Elle peut relever d'une contrainte syntaxique, d'une mise en relief ou d'un effet de rythme qui ne se transpose pas mécaniquement en français. Cette méthode protège contre deux erreurs opposées, la traduction mot à mot qui déforme les structures et la paraphrase trop libre qui efface des nuances importantes. Elle rappelle aussi que l'ambiguïté doit être examinée dans son contexte plutôt que résolue arbitrairement. La version devient ainsi une lecture analytique avant de chercher une formulation française. L'étudiant doit savoir précisément ce que le passage affirme, suggérit, organise. Cette discipline est particulièrement adaptée aux textes littéraires, où la syntaxe participe pleinement au sens et à la voix du texte. Deuxièmement, passer de la fidélité lexicale au choix du mot juste en français. Le manuel traite le vocabulaire comme un problème de décision contextualisé plutôt que comme une série d'équivalences fixes. Un mot anglais peut couvrir un champ plus large ou différent de celui de son apparent correspondant français. Le traducteur doit donc tenir compte du sens local, des collocations, du niveau de langue et de l'effet produit dans la phrase entière. Cette attention est essentielle face au calque, c'est-à-dire au tour qui semble proche de l'anglais, mais aboutissent à un français peu naturel ou imprécis. Éviter le calque ne signifie pas s'éloigner du texte. C'est souvent le moyen de restituer plus exactement sa fonction dans la langue d'arrivée. Le choix lexical implique aussi d'observer les répétitions, les termes concrets, les verbes de mouvement ou de perception et les mots à valeur évaluative. Selon le contexte, conserver une répétition peut être nécessaire pour respecter une insistance, tandis qu'une répétition imposée par l'anglais peut demander une modulation française. L'ouvrage invite ainsi à distinguer la fidélité au signe isolé de la fidélité au sens, au registre et à la cohérence du passage. La consultation d'outils lexicographiques reste utile, mais elle ne remplace pas le jugement. Plusieurs solutions de dictionnaire peuvent être possibles, alors qu'une seule s'harmonise réellement avec la syntaxe, le ton et le contexte français. Cette démarche développe simultanément la précision en anglais et la qualité d'expression en français. Troisièmement, traiter les écarts de syntaxe sans plaquer la phrase anglaise. La traduction anglais-français exige fréquemment une réorganisation de la phrase. L'anglais peut condenser l'information dans des groupes nominaux, accumuler des expansions ou maintenir une progression qui ne donnerait pas un français lisible si elle était reproduite telle qu'elle. Françoise Grellet place donc les procédés de traduction au centre de l'apprentissage. Il donne un cadre pour reconnaître qu'une transformation est parfois nécessaire, sans confondre transformation et liberté arbitraire. La modification de l'ordre des éléments, l'explicitation prudente d'un rapport implicite, le changement de catégorie grammaticale ou la segmentation d'une phrase longue peuvent permettre de conserver le sens, tout en respectant les habitudes du français. Ces choix doivent toutefois répondre à une raison identifiable, clarifier une relation, préserver une hiérarchie d'informations, éviter une lourdeur ou rendre un effet syntaxique par un autre moyen. Les phrases complexes fournissent un terrain particulièrement révélateur. Il faut y déterminer la portée des compléments, le référent des pronoms et la dépendance exacte des propositions avant toute reformulation. Une traduction correcte sur le plan grammatical peut rester défaillante si elle déplace une insistance ou brouille le point de vue. L'intérêt pédagogique du manuel tient à cette articulation entre analyse et rédaction. Il ne réduit pas la version à l'application de recettes, mais montre que les procédés sont des instruments de contrôle. L'étudiant apprend à justifier ses remaniements, à relire leurs effets et à produire une phrase française autonome plutôt qu'une imitation transparente de l'ordre anglais. Quatrièmement, restituer images, métaphores, style et ton plutôt que le seul contenu. Une part distinctive du parcours proposé concerne les défis qui dépassent la compréhension littérale. Images, métaphores, ironie discrète. Intensité affective et niveau de langue posent un problème spécifique. Une traduction peut transmettre les faits tout en perdant la manière dont le texte les fait sentir. Le manuel attire l'attention sur cette dimension stylistique afin d'éviter une version uniquement informative. Une image anglaise peut parfois être conservée si elle demeure intelligible et vivante en français. Dans d'autres cas, une transposition est préférable lorsque la formulation littérale devient opaque, involontairement comique ou contraire au registre du passage. La décision dépend alors de la fonction de l'image d'écrire avec précision, créer une atmosphère, exprimer un jugement ou installer une voix particulière. Le même raisonnement vaut pour le ton. Une narration sobre ne doit pas être artificiellement embellie, tandis qu'un texte expressif ne doit pas être aplati par un français administratif. La difficulté n'est pas de produire un français élégant en général, mais un français dont le degré de simplicité, de distance ou de tension correspond au texte source. Cette attention suppose une relecture globale, car le style naît souvent de répétition, de rythme et de choix convergents, plutôt que d'un mot spectaculaire. En intégrant ces questions à une initiation méthodique, l'ouvrage rappelle que la version littéraire est aussi une pratique d'écriture. La rigueur grammaticale y constitue une condition nécessaire, mais insuffisante, de la justesse. En dernier lieu, un entraînement gradué fondé sur l'étude des traductions et la pratique active. L'organisation pratique du livre repose sur 50 textes d'application distribués selon 3 niveaux de difficulté. Cette progression répond à une nécessité pédagogique. Les mécanismes de la version ne deviennent pas utilisables par la seule lecture de règles. Ils doivent être rencontrés dans des textes, puis appliqués et vérifiés. Les traductions à étudier parallèlement aux textes anglais permettent d'observer concrètement les écarts entre les deux langues. Elles donnent matière à comparer les constructions, à repérer les solutions non littérales et à comprendre comment une formulation française peut être fidèle sans reproduire chaque élément. Les textes gradués à traduire placent ensuite l'apprenant dans une position active, où il doit hiérarchiser les difficultés et formuler ses propres choix. La gradation est importante car elle évite de confronter d'emblée le lecteur à une accumulation de problèmes syntaxiques, lexicaux et stylistiques. Elle favorise plutôt la constitution d'automatismes contrôlés, analyser la structure avant de rédiger, relever les ambiguïtés, se méfier des ressemblances trompeuses et relire le français comme un texte à part entière. Cette architecture rend l'ouvrage utilisable en autonomie, à condition de comparer attentivement son travail aux traductions proposées, mais aussi dans un cours où la confrontation des solutions nourrit la discussion. Son usage est cohérent avec les pratiques universitaires de version, qui demandent des exercices réguliers et une correction attentive. Le livre ne promet pas une solution instantanée, il fournit un cadre progressif pour transformer la correction en méthode réutilisable. En conclusion, Initiation à la version anglaise s'adresse en priorité aux lycéens avancés, aux étudiants d'anglais, aux élèves de classe préparatoire et aux candidats confrontés à une épreuve de traduction de l'anglais vers le français. Il peut également servir à tout lecteur disposant déjà de bases grammaticales solides et désireux de comprendre pourquoi une version est juste, maladroite ou trop littérale. Son bénéfice pratique est de structurer le travail analysé avant de rédiger, distinguer les difficultés de compréhension des difficultés de formulation et contrôler ensuite la qualité du français obtenu. Sur le plan intellectuel, il fait apparaître la traduction comme une comparaison active entre deux systèmes linguistiques et deux manières d'organiser le discours. L'apprenant améliore donc à la fois sa lecture de l'anglais et sa maîtrise du français écrit. L'ouvrage se distingue des recueils d'exercices centrés seulement sur la répétition, comme des listes de vocabulaire ou des catalogues de pièges sans contexte. Il relie méthodologie, réflexion sur les procédés, études de traduction et pratiques graduées sur un ensemble conséquent de textes. Cette articulation explique sa présence durable dans des bibliographies de formation, en traduction et en études anglophones. Il convient moins à un grand débutant, qui aurait besoin d'un apprentissage élémentaire de la langue, qu'à un lecteur prêt à travailler avec précision sur des textes exigeants. Pour ce public, il offre un instrument de référence sobre, progressif et directement exploitable dans une préparation régulière à la version. Si vous souhaitez soutenir Françoise Grelet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.